Moi, je suis d'accord avec l'arrivée du nouveau poste et je suis d'accord avec l'emplacement aussi.
J'ai dit fort parce qu'il avait écrit tout en majuscule.
Qu'une fois, une Française de France m'a dit que c'était tellement laid ces poteaux-là qu'elle voudrait retourner en France pour plus les voir.
Pendant qu'au Québec, Hydro nous offre ses vieux pylônes LED, l'Islande ose.
Ah ouais, hein?
Bonjour et bienvenue à Votre tweet est important pour nous. C'est la série Balado où on aborde vos commentaires sur les plateformes de médias sociaux. Et autour de la table, on a nos gestionnaires de communauté qui vous répondent, à commencer par Gabriel Leblanc.
Bonjour.
Jonathan Côté.
Salut.
Et Pierre-Alexandre Buisson.
Hello.
On a aussi autour de la table André Dagenais. Bonjour.
Bonjour.
André, vous êtes chef... Comment on dit ça? Chef d'évolution du système énergétique.
Ça exactement.
Sonne, ça sonne Pokémon, hein,
ça
les évolutions.
Ça sonne vraiment hot, hein, comme titre. Ouais.
En quelques mots, comment on résume le poste de chef évolution du système énergétique?
J'aime beaucoup mon titre. Il a de l'air trop important pour ce que je fais, mais c'est le fun.
Fait qu'on t'a-tu invité pour rien ou?
Je sais pas, tu me diras ça à la fin.
C'est bon, on en reparle tantôt.
En quelques mots, est-ce qu'on peut résumer en quoi consiste ce poste-là?
Oui. Donc, on fait des plans d'évolution à long terme pour le réseau 735KV. On est tous des planificateurs de réseau à la base. Donc, moi, je suis un planificateur de réseau de formation et de profession.
Donc, on parle du réseau haute tension, là.
Absolument. Le réseau de transport. On s'assure que les pratiques de planification sont les meilleures au monde. Donc, la barre est haute parce qu'on a un réseau 735KV. Donc, Hydro-Québec a inventé le 735KV. On en est vraiment fiers de notre réseau. C'est un réseau qui est super compliqué. Donc, on s'assure de rester au top de la planification de réseau. Et troisièmement, bien, on est un bassin d'expertise pour s'assurer que tout le monde dans l'entreprise comprenne comment ça fonctionne un réseau. Transport. C'est pas si simple que ça.
Et c'est un réseau qui, parfois, ne fait pas l'unanimité dans le public. On va y revenir un peu plus tard. Mais avant, on a quelques petites informations à vous soumettre.
Il fait l'unanimité autour de la table.
Oui, oui. Nous, on est ça. Ça. Dans les commentaires.
Les lumières sont ouvertes. Hein? Oui, les c'est un bon départ.
Oui. Belle remarque. On dit d'André Dagenais qu'il est un grand amateur de café.
Oui.
On est plusieurs.
OK. Ouais, ouais. Ça sent presque, voilà. En fait. Ouais, ouais.
Un choriste aussi?
Oui.
Oui. Oh. Donc, on pousse la chansonnette. Oui.
Est-ce qu'on aura droit à un extrait de ton talent?
Pas sûr.
Un point en commun avec votre voisin de droite, vous êtes aussi un amateur de jeux vidéo, semble-t-il.
Ah oui, quand même. À mes heures. Mais plus old school.
Ah.
C'est plus NHL que les bidules récents qui sortent.
OK, là. OK.
Ouais.
Rétro gaming.
Ouais, un peu.
OK.
Donc, André, on a abordé un peu le sujet là, rapidement, mais pour les internautes, les projets de lignes de transport, c'est un peu encombrant, c'est très visible. On a quelques commentaires à vous soumettre et à vous faire réagir là-dessus. On commence par Jonathan.
Oui, bien, je dis que j'allais partir du bon pied, donc je vais lire le commentaire de Robert qui, lui, nous disait dans nos commentaires « Moi, je suis d'accord avec l'arrivée du nouveau poste et je suis d'accord avec l'emplacement aussi ». J'ai dit fort parce qu'il avait écrit tout en majuscule. Fait que je voulais avoir la même vibe que lui. Donc, Robert, lui, est d'accord.
Bon.
Mais c'est pas le cas de tous les gens qui nous écrivent quand même.
C'était le seul qui est... Dans toute la flopée de commentaires qu'on va lire aujourd'hui, c'est le seul qui était d'accord.
Oui, okay, fait garde-le dans ton petit cœur parce que c'est positif. Parti. Ouais.
C'est pour le poste d'Argenteuil en passant.
Okay.
Vous pouvez mettre ça dans la case d'accord.
D'accord. C'est bien.
Gabriel.
Manon, à la différence du commentaire qu'on vient de lire de Robert, nous dit « Faudrait commencer par changer les vieux poteaux. J'en ai un dans ma cour, c'est ma clôture qui le tient, puis quand il vente un peu, il penche dangereusement. Puis quand je regarde les autres poteaux, on dirait qu'ils font de la danse en ligne. C'est tellement gênant qu'une fois, une Française de France m'a dit que c'était tellement laid, ces poteaux-là, qu'elle voudrait retourner en France pour plus les voir. » Là, je sais, il faut faire la distinction. Ça, c'est le réseau de distribution, donc le réseau à la maison. Toi, tu t'occupes du réseau de transport. Je voulais juste qu'on en profite pour faire la distinction avec les gens et aussi pour te donner le ton hein, des commentaires qu'on reçoit. Les gens, évidemment, chialent souvent contre les poteaux du réseau de distribution qu'ils ne trouvent pas super beaux. Au niveau des pylônes, là, est-ce que ce serait possible de faire de l'enfouissement? Parce que ça, c'est la question qui revient tout le temps pour le réseau de distribution.
Ah oui. Bon, l'enfouissement pour le réseau de distribution, pour le réseau de transport, c'est pas nécessairement la même chose. C'est une distinction qui est super intéressante à faire. Premièrement, distinguons les deux réseaux. Le réseau de distribution, c'est probablement le poteau de votre dame qui est laid puis qui penche un petit peu, puis qu'une clôture serait pas capable de supporter un pylône de transport. Ça se peut qu'il y ait des lignes de transport sur des poteaux de bois. Il y en a quelques-unes, relativement vieilles d'habitude, mais généralement, c'est assez gros qu'une clôture ne sera pas capable de soutenir. Donc, le réseau de transport, c'est des réseaux de répartition, donc les réseaux régionaux, qui vous alimentent chez vous, dans vos villes et villages au Québec, mais pas au niveau des rues. Donc, on est quand même sur des pylônes d'acier, généralement, sur des lignes à 69 000 volts en montant jusqu'à 315 000 volts. Donc, ça, c'est des lignes de répartition. Et ensuite, on s'en va vers le réseau principal à 735 000 volts, où là, c'est vraiment le réseau qui sert à relier les grandes centrales du Nord avec le sud du réseau. C'est vraiment le niveau de tension et la technologie qui fait la particularité du réseau d'Hydro-Québec aussi. Donc ça, c'est pour distinguer les deux réseaux. Après ça, tu nous as parlé d'enfouissement. Bien, le réseau de distribution s'enfouit relativement bien. Puis là, j'ai regardé, il y a une balado où on parle du réseau de distribution qui nous explique à quel point c'est pas simple d'enfouir du réseau de distribution puis que ça coûte cher. Là. Bien, le réseau de transport, c'est pire.
OK.
C'est encourageant.
C'est encourageant, hein? Nos lignes en puissance alternative, en courant alternatif, bien, celles-là, c'est les triphasées. Donc, vous voyez, souvent, c'est toujours des groupes,
avec trois
des groupes
fils,
de trois.
Trois fils.
Exactement. Donc, les lignes de transport, ça vient souvent par groupe de trois, tout le temps, par groupe de trois conducteurs en alternatif. Et c'est ça qui s'enfouit relativement mal, parce que c'est très simple comme réponse de dire, bien, ça coûte trop cher d'enfouir des fils. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a, en courant alternatif, un phénomène qu'on appelle la puissance réactive. Vous êtes familier avec la bière?
Oui.
Avec un verre de bière?
Oui, on est assez bon là-dedans. Ouais.
OK. J'ai décidé que c'était avec vous autres que je sortais mon image de verre de bière.
C'est vraiment le bon endroit.
J'adore ce qu'on évoque. Ouais, c'est...
Bon, excellent. Donc, si vous avez un verre que l'eau ici pourrait représenter la bière, bien, par-dessus, si vous la versez puis que vous faites bouger la bière, bien, vous allez obtenir de la broue.
Mm-hmm.
De la broue qu'il faudra contenir dans votre verre, mais qui ne va pas vous donner un plaisir particulier. Ça va déterminer, la vitesse à laquelle vous versez va déterminer la quantité de broue que vous avez, tu sais, dans le fond. Fait que le niveau de tension sur le réseau va aussi déterminer le niveau de puissance réactive que vous allez générer par opposition à la puissance active.
Donc, la puissance réactive, c'est-tu la broue dans le verre de bière?
C'est la broue.
C'est la broue.
Exactement.
Donc, moi, j'ai quelqu'un qui nous disait, je comprends pas toujours pas pourquoi il n'y a pas plus de lignes enfouies. Donc, je pourrais lui répondre, c'est à cause de la broue dans le verre de bière.
Absolument. C'est ça. Exactement.
C'est réglé.
La puissance réactive, c'est la puissance qu'on perd, qui génère de la chaleur.
Qui génère de la chaleur, mais qui génère pas de travail. En fait, c'est toujours une perte. Il faut s'assurer que le niveau n'est pas trop haut parce que la tension deviendrait trop élevée ou pas trop basse parce que la tension deviendrait trop basse.
Puis pour enlever la broue dans le verre, c'est pour ça qu'on installe des postes qui vont restabiliser tout ça tout au long d'une ligne. Est-ce que j'ai bien suivi?
Oui, on peut installer dans des postes des équipements de compensation réactive. Donc, des condensateurs qui vont fournir la puissance réactive, des inductances qui vont absorber. Oui, des inductances shunt.
Hey, t'en as pris des choses quand même les dernières années.
Grosse année chez Hydro.
Yes! Donc, une inductance shunt qui va aller absorber de la puissance réactive quand on va en avoir trop sur le réseau. Et okay. Plus la tension est élevée, plus il y a de puissance réactive à gérer. Puis, dans les câbles souterrains, c'est 10 fois pire que dans une ligne aérienne. Ça varie selon le niveau de tension, là, mais c'est à peu près un facteur 10.
Donc, ce que je présume, c'est que tous les moyens qu'on doit mettre en place pour essayer de gérer cette puissance réactive-là, ça générait des coûts astronomiques, finalement, pour essayer de le faire sur des longues distances et tout ça.
C'est exactement ça. En plus, ce serait des coûts qui augmenteraient de manière exponentielle avec la distance. Donc, c'est ça qui est traître aussi. T'sais, enfouir 2 km de ligne à 120 000 volts, ça va être relativement simple. Souvent, on se fait poser la question, oui, mais en dessous de mon quartier à moi, là, celui-là, là, cette bout-là, là, ça serait-tu faisable de l'enfouir? Bien, probablement que chez vous, oui, ce serait faisable de l'enfouir. Mais par contre, si je fais ça, ben il va avoir un autre bout de quartier plus loin qui va aussi vouloir l'enfouir. Puis finalement, ben, on va se retrouver à en enfouir beaucoup des bouts de quartier.
Ouais.
Puis c'est la multiplication des kilomètres souterrains, c'est ça, qui nous amène dans cette spirale de coûts qui
si le réseau faisait au total un kilomètre, on n'en aurait pas de problème.
Non.
C'est ça, le grand enjeu, hein, évidemment.
J'aurais pas de job, non.
On verrait peut-être bien un petit peu si c'était le cas.
Ben, c'est vrai, mais je veux juste rebondir là-dessus parce que, bon, on s'entend, on va pas enterrer le réseau de 735, le réseau de tension, mais Mathieu avait quand même une autre idée pour toi. Est-ce que les lignes haute tension pourraient être par-dessus la canopée afin de n'avoir que de petits espaces carrés déboisés au lieu de toute la ligne et en plus, ils pourraient avoir des économies sur la coupe d'arbres? Parce que là, on sait qu'on fait des couloirs, en fait, là, les emprises pour dégager autour de nos lignes,
mm-hmm.
au-dessus du canopé.
Ouais. Ça dépend de l'endroit où on est, ça dépend des essences d'arbres, mais il y a des endroits où on a fait ça. C'est quand même un défi, là, parce que ça prend une ligne qui est beaucoup plus haute, ça prend des arbres qui sont pas trop hauts. Et il faut être relativement confiant non plus qu'il n'y ait pas de feu de forêt qui va se déclencher en dessous de la ligne. Ben, ça n'aidera pas la ligne.
D'ailleurs, si on veut intervenir sur cette ligne-là, s'il y a un problème, j'imagine que déplacer des véhicules dans la pas d'emprise, ça doit être quand même un défi aussi.
C'est plus compliqué. Ouais, puis je pense qu'il se laisse toujours un chemin, même s'il n'y a pas d'emprise, là, pour s'assurer que ce soit faisable. Bon, on l'a fait dans la Miquassagné pour le caribou forestier. Ah ouais. On va avoir un corridor de connectivité pour le caribou forestier, s'assurer que...
On le fait par section. Il va y avoir un petit bout, il y a un corridor, puis le reste, il y a une emprise. En
fait. Exactement.
C'est pour permettre au caribou de rester à l'abri pour ne pas être trop exposé aux prédateurs.
C'est ça. Exactement.
On parlait de pylônes tout à l'heure. À peu près à chaque 2-3 mois, il y a quelqu'un qui nous ressort la bonne vieille photo de pylônes en forme d'être humain. Sans nécessairement savoir que ces pylônes-là n'ont jamais été construits puis que c'était juste un prototype dans l'imagination fiévreuse de quelqu'un qui les a dessinés. Puis on a Monsieur Free qui nous dit sur Twitter « Pendant qu'au Québec, Hydro nous offre ses vieux pylônes let, l'Islande ose. »
Ah ouais, hein?
Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on fait pas des pylônes en forme de bonhomme avec les bras?
Mettons, à part pour des raisons évidentes, là.
Oui. je dirais, ça fait longtemps qu'on y pense. Puis je dirais que plus j'étais jeune et naïf, plus je me lançais dans des histoires de pylônes artistiques, des choses comme ça. Puis là, plus j'ai d'expérience, plus je vois les embûches qu'il y aurait sur le chemin d'un éventuel pylône artistique. Puis entre autres, ben premièrement, le côté froid, génie, là, c'est que ça fait des décennies qu'on optimise nos pylônes actuels. Donc, nos pylônes sont optimisés pour être les plus étroits, les plus petits possibles, selon le niveau de tension, selon le service qu'ils nous rendent. Donc, si on s'amuse à faire des géométries nouvelles, bien, nécessairement, ils vont être plus hauts ou plus larges ou plus encombrants, ou ils vont avoir plus de pylônes, puis ils risquent de coûter pas mal plus cher, puis... Donc, il y a déjà ça.
Mais là, comme, tu dis que c'est plus haut, mais souvent, les gens nous disent qu'ils ne veulent plus les voir. Donc là, si on arrive avec des c'est modèles ça. De pylônes plus hauts, ça va un peu à l'envers de la demande qu'on nous fait
si
souvent.
Si c'est en forme d'humain, on risque de les remarquer un peu plus. Donc, ouais. Mais ça, c'est quand même intéressant, les pylônes, parce que ça engage vraiment beaucoup de questionnements. Puis mon amie Anne voulait absolument que je vous demande pourquoi les pylônes ont l'air de ce que nos pylônes ont l'air. Mais dans le fond, c'est qu'ils sont optimisés pour nos besoins. On a différents types de pylônes, par exemple. On a le Midwest, le pylône classique, le pylône en T, le pylône d'angle, le pylône tubulaire. J'ai nommé tous les pylônes que je connaissais. Je voulais juste montrer toutes mes connaissances de pylônes.
Ça fait quand même deux fois que tu nous montres tout ce que tu connais.
Moi, je pense que je vais y aller, dans le fond. quel pylône va où? Pourquoi on choisit tel type de pylône plutôt qu'un autre? Puis, est-ce que tu sais pourquoi le pylône Midwest s'appelle le pylône Midwest?
Je pense que c'est une histoire d'actrice.
Une histoire d'actrice.
De forme.
Voilà, c'était ma sous-question.
C'est-tu elle qui a bâti le premier pylône Midwest?
C'est à cause du petit gâteau. Non, c'est à cause de sa forme qui rappelle vaguement celui d'un corps de femme.
C'est-tu flatteur l'actrice, ça?
De je sais pas. Je sais pas, mais ça nous rappelle qu'à une époque, il manquait beaucoup de femmes chez Hydro-Québec.
Ouais. Ouais, je pense que une gang de gars à la Manicouagan dans les années 60.
Ça, là, ça... Oui, c'était peut-être pas optimal. Bref. Pourquoi un type de pylône plutôt qu'un autre pylône dans un tel contexte?
Oui, bien, en fait, ça dépend dans quel milieu on s'intègre. Mais je pourrais vous dire justement une remarque que les pylônes tubulaires, en comparaison aux pylônes en treillis, souvent, les pylônes tubulaires vont coûter un petit peu plus cher, vont être un petit peu plus
pylônes lourds. Tubulaires, juste pour qu'on explique un peu à nos auditeurs, c'est quoi? Dans oui. fond, c'est, je pense que c'est sûr que c'est comme juste un gros poteau en métal, dans le fond, au lieu d'une structure qui ressemble un peu à Tour Eiffel.
Exactement.
Ils sont blancs, ils s'effacent quand même un petit peu mieux que
c'est un pylône
les structures en métal.
Ah. Bien, un pylône, il y a un tube. Un
ouais,
tube, donc par rapport au treillis, treillis est troué. Ah. Fait que le tube, il est plein. Il y a une paroi. Et justement, c'est souvent, bien, on a tendance à mettre le tubulaire dans des secteurs plus industriels, plus urbanisés, versus le treillis de ailleurs. Mais il y a des milieux qui préfèrent le tubulaire. Il y a des milieux qui préfèrent le treillis.
Rendu là, c'est esthétique.
Oui.
OK.
Mais autrement dit, tous les goûts sont un peu dans la nature. Donc, des
exact.
Fois, on va arriver, on dit, hey, on va faire un pylône qui va être, on pense qu'il va être plus beau, mais finalement, il y en a qui l'aiment moins, il y en a qui l'aiment plus. Moi, à un moment donné, je m'en allais en Estrie avec ma famille et on arrive sur le bord de l'autoroute 10, puis il y avait une rangée de pylônes, mm-hmm. un grand pylône à treillis, et mon fils de déclarer ah, on vient de voir la Tour Eiffel. Donc,
wow.
j'ai constaté à ce moment-là qu'à un certain âge, ça ne vaut pas la peine d'amener ses enfants en France, puisque je peux juste aller sur le bord de la 10.
Sauver plein d'argent.
La beauté est dans l'œil de celui qui regarde.
Tout à fait.
Mais on a quand même beaucoup de démarches qui sont faites pour essayer d'améliorer l'aspect ou du moins de le rendre plus acceptable. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Oui. Bien, en fait, beaucoup, on va tenter de comprendre les besoins du milieu. Les équipes projet vont beaucoup, beaucoup se pencher. On a des équipes de conception de lignes qui vont aller vraiment concevoir le pylône malgré le fait que les modèles de pylône sont relativement standards. Il y a quand même plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Sur lesquels les équipes d'expertise peuvent jouer. Par exemple, le nombre de pylônes et la hauteur de ceux-ci. Bien, plus on va baisser la ligne, plus ça va prendre de pylônes. Parce que l'élément dimensionnant d'une ligne, c'est la distance entre le conducteur et le sol dans le milieu, entre deux pylônes. Ce qu'on appelle la flèche.
Là, la ligne qui pend comme ça entre les deux pylônes, il faut
c'est
garder
ça.
Une certaine hauteur.
Exact. Donc, si on veut garder la ligne la plus basse possible, bien, il faut rapprocher les pylônes les uns des autres. Puis si on veut avoir le moins de pylônes possible, ça va donner une ligne plus haute. Mais à ce moment-là, on va éloigner les pylônes les uns des autres, les mettre un petit peu plus haut.
Donc, il y a une marge de manœuvre. On peut
Absolument.
Offrir aux gens différents formats. Par contre, une structure de transport, c'est nécessaire et il faut quand même en faire une. Donc, on a une marge qui est somme toute limitée parce qu'à un moment donné, il faut faire la ligne, malheureusement.
On se pose beaucoup la question en planification, en fait, quel est le bon projet au bon endroit, au bon moment? Et ça, c'est notre questionnement de toujours. Et justement, j'en reviens aux lignes souterraines où on va avoir des contraintes, par exemple, de dégagement de chaleur ou la quantité de courant qu'on va pouvoir passer dans une ligne souterraine, en plus de toute la poutine, la puissance réactive qu'on a mis derrière nous. Bien, on a des enjeux de dégagement de chaleur parce qu'on est dans un milieu fermé. Où il fait à peu près 8-9 degrés dans le sol, tu sais, si on est enfoui. Par contre, au Québec, la pointe de consommation, c'est l'hiver. C'est l'hiver dans nos grands froids. Il n'y a pas grand-chose de mieux qu'une ligne au grand vent l'hiver à moins 20, moins 25 degrés Celsius pendant la pointe pour dégager de la chaleur. Donc, c'est un avantage intrinsèque qui est très, très propre au Québec des lignes aériennes par rapport aux lignes souterraines.
Donc, nous, on a besoin de ce froid-là pour refroidir les lignes qui sont vraiment fortement sous tension. Puis, il n'y a
Exactement.
Pas assez de vent sous terre, finalement.
Bien,
c'est ça?
Il n'y a pas assez d'endroits où la chaleur peut aller. Disons que le dégagement de chaleur se fait moins bien dans le sol que dans l'air.
Pierre-Alexandre, un petit moment de philosophie, si je ne me trompe pas.
Ouais, on est-tu rendu là?
On est pas mal rendu là.
OK. Bien, moi, je vais faire un petit quiz aujourd'hui. Je vais vous lire certains commentaires qui ont retenu mon attention en provenance de notre compte Facebook, évidemment, et je vais vous demander de les lier à un courant philosophique, si vous en êtes capable.
Si on se rappelle de nos cours de philo...
J'espère que vous avez une bonne mémoire.
Moi, j'étais en séance enrichie, mais...
C'est là où on va tous avoir la foule. Vas-y, P.A.
Ouais. Donc, le premier, j'en ai quatre pour vous. Le premier, c'est Jessica qui dit « L'avantage pendant les pannes, c'est que ça coûte moins cher d'hydro. »
Bien, ça, c'est optimiste, là. Ça doit être le courant des optimistes.
C'est un courant.
C'est un courant alternatif.
C'est un courant, oui.
En tout cas, nous, on aime tous les courants.
C'est pas faux, mais c'est pas exact. Ça serait du conséquentialisme, un courant pensé par Jeremy Bentham, un philosophe britannique qui est décédé en 1832, donc sa pensée ne date pas d'hier, selon lequel la moralité dépend du fait que la conséquence est bonne ou mauvaise, chose qu'on peut évaluer selon le niveau de joie ou de peine. Donc, dans ce cas-là, le bilan utilitariste est positif, la chose est bonne et morale. On sent aussi quand même un peu de sarcasme dans le commentaire de Jessica.
Oui, à peine, mais on l'apprécie quand même.
D'accord. Mon deuxième est de la part de Bob, qui nous dit « Vous devriez inventer l'électricité via Wi-Fi. »
On essaye.
Ouais. Si ça existait, on l'aurait. Ça serait génial.
Eh bien, ce courant-là, c'est l'optimisme naïf.
Ah, donc, je l'avais presque. Notre ami, pour le commentaire d'avant. Oui,
notre ami Voltaire l'aurait apprécié et sans doute utilisé dans Candide. L'optimisme naïf, c'est quelqu'un pour qui le monde qui existe est forcément le meilleur.
Mais clairement, sur notre page, c'est un des courants les plus courants.
Bien, pour planifier des réseaux, ça prend une certaine forme de positif, de positivisme naïf.
Oui, quand même. Ouais, quand même. Voilà. Mon troisième, c'est Pierre qui nous dit « En 98, j'ai manqué 10 jours d'électricité. Cette année, 10 heures. C'est vraiment mieux dans mon coin. »
Le relativisme.
Oh. Le réalisme.
C'est le sophisme de la mauvaise analogie.
C'est une erreur. Ouais.
Il compare deux situations aucunement semblables. Les sophismes, ça a été inventé par les sophistes en 400 avant Jésus-Christ afin de convaincre les foules d'embarquer dans des projets périlleux, genre la guerre. Selon eux, faire peur aux gens, ça marche, donc c'est bien, même si c'est basé sur des faussetés.
Autrement dit, plus ça change, plus c'est pareil.
En effet.
Mais je pense que ce sophisme-là, on l'avait dit au cégep avec la comparaison de « j'ai des dents, les fourchettes ont des dents, je suis une fourchette ».
Exact.
C'est très coloré, j'ai pas...
Non, j'ai une fourchette.
C'est la terre on n'est pas de la même époque de cégep, fait que j'avais pas cet exemple-là, mais je le retiens, c'est vraiment
c'est pas
nice.
C'est pas pire, hein?
Ouais. Et mon dernier, et non le moindre, c'est Bruno qui dit « je demande aux chialeux de bien vouloir mettre les choses en perspective ».
Ah! Bien, on l'apprécie, ça, vraiment. Mais ouais. Je pourrais pas dire c'est lié à quoi.
Bien, c'est presque un sophisme. Dans ce cas-ci, ça fait beaucoup penser à Protagoras, qui était un philosophe sophiste grec. Les gens qui chialent ne prennent pas assez de recul et font des sophismes. Ils illustrent la déclaration de Protagoras, ennemi juré de Platon, soit dit en passant, voulant que l'individu est la mesure de toute chose. Ils les invitent à sortir de leur individualisme. C'est comme une critique du relativisme, mais par un relativiste plus sage qui considère davantage le contexte que l'individu.
Merci de nous avoir éduqués, Pierre.
Oui, c'était fort instructif. Merci beaucoup.
À sortir de leur individualisme, c'est intéressant parce que souvent, pour les projets de ligne, c'est pas là qu'on est. Puis on en parlait en préparation de cet épisode-là, les fameux acronymes anglophones qui résument les projets, le NIMBY, là, Not in my backyard, puis le Banana que tu
disait « Build absolutely nothing anywhere near anything ». Donc, c'est de ne construisez rien nulle part, finalement.
C'est un peu drastique, celui-là, par exemple.
Mais oui, ça, c'est vraiment le...
Mais des fois, c'est ce qu'on sent quand même.
C'est ça, plus loin.
Des fois, c'est ce qu'on sent quand même.
Le plus loin du pas dans ma cour. Évidemment, tout le monde veut de l'électricité, mais personne veut de ligne.
Veut de pylônes.
Mais si on avait l'électricité Wi-Fi, comme on avait entendu sur notre page...
Que tout est possible.
Voilà. Dans les commentaires qu'on a, justement, il y a des gens qui abondent dans ce sens-là, dont Ghislaine, si je ne m'abuse.
Ghislaine nous disait, parce que évidemment, on doit consulter les gens lorsqu'on fait des projets de ligne, des projets de poste. On veut avoir l'opinion des gens, on fait des portes ouvertes pour échanger avec eux. Et Ghislaine avait des doutes un peu sur ce type de démarche-là. Elle nous dit « Voir si le public va changer quelque chose, on est loin, loin dans la liste. Je pense qu'on n'est même pas sur la liste des décideurs. » Je ne sais pas si on a une liste de décideurs, d'ailleurs. « On est juste des payeurs. »
Bien, on a certainement une liste de clients à desservir. Donc, on a une
donc,
Justine demande...
est sur cette liste-là.
Oui, j'espère. Ben, c'est à l'habit au Québec. Oui, sur cette liste-là. Et quelque part, les consultations qu'on fait avec le milieu, bien, premièrement, je peux vous parler un peu du nouvel élan en acceptabilité sociale, qui est un grand exercice auquel ont participé nombre d'employés dans un vaste nombre d'expertises aussi à Hydro-Québec qui visait justement à améliorer l'acceptabilité sociale des projets. Puis une des choses qui revenait les plus souvent pour nous en planification dans le nouvel élan, c'est de réussir à mieux considérer les besoins du milieu en amont. Et pour considérer les besoins du milieu, bien, il faut les connaître. Donc, ça veut dire d'aller consulter des acteurs du milieu, des parties prenantes du milieu qui peuvent nous aider à mieux planifier
Donc, plutôt dans le processus, finalement, plutôt que d'arriver et de dire « voici un projet ».
Exactement. Puis quand on n'a pas de projet de ligne en tête, quand on n'a pas de projet de poste en tête de défini, qu'on est en train de consulter sur un besoin, on va aller voir des villes, des MRC, des organismes environnementaux qui vont nous permettre de mieux saisir les besoins du milieu. Donc là, il y a un premier exercice qui est fait à cette hauteur-là, si on veut, pour venir tenir compte des contraintes du milieu. Par la suite, une fois que ces consultations-là sont faites, bien là, si le besoin d'infrastructures nouvelles se concrétise, bien là, on va tenir compte de ces contraintes-là et on va aller lancer un projet. Et ce projet-là, par la suite, bien lui, il va aussi va évidemment consulter le milieu de manière beaucoup plus fine. La première étape, on est peut-être à se poser des questions. Bien, sont où les grandes zones protégées dans le milieu? Est-ce que vous avez des paysages d'intérêt? Est-ce que vous voulez vraiment continuer le développement comme vous êtes parti là? Comment vous vous enlignez? La deuxième étape de consultation, quand on va être vraiment plus en projet, bien là, on va plus rentrer dans le détail d'un projet. Donc là, on sait qu'il va y avoir une ligne, un poste. Donc là, avant même d'avoir des tracés, avant même d'avoir des sites potentiels de postes, bien, l'équipe projet va aller consulter le milieu pour savoir encore là quels sont les éléments de contrainte les plus pertinents.
Donc ça, c'est la nouvelle démarche. Est-ce que c'est entièrement nouveau? On faisait déjà un peu ça, puis on l'a amélioré.
On faisait déjà un peu ça. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est la consultation en amont, au niveau de la planification.
Bien avant les projets. Là.
Bien avant les projets, exactement. Et il y a aussi plusieurs éléments nouveaux après, dans les projets, dans le cadre du Nouvel Élan, par exemple, l'accompagnement des riverains.
On ne parle pas nécessairement de rivière, c'est n'importe qui est autour d'un
riverain de nos projets d'infrastructure. Exactement. Donc, pour réussir à trouver des solutions, par exemple, planter des arbres au bon endroit pour réussir à diminuer la vue de quelqu'un sur une infrastructure. On va aussi avoir des initiatives concernant la conception de nouveaux pylônes, justement, ou l'ajustement de la conception de pylônes existants selon le milieu. Puis, donc, évidemment, quand on va faire cet inventaire-là, quand on va parler quand l'équipe projet va aller parler au milieu, bien, il va ressortir des contraintes, va ressortir des commentaires. Puis, par la suite, là, on va concevoir des tracés, on va arriver avec des sites de postes. Plusieurs, où là, on va consulter sur un choix de site de poste, un choix de tracé de ligne. Puis là, encore là, il y a une autre série de consultations. Puis à chaque fois,
donc
écoutez...
On consulte à plusieurs étapes,
de
bien avant le projet, à vraiment mise en place du projet, puis ensuite, on a un suivi, j'imagine, qui s'effectue tout au long de celui-ci.
Exactement.
Donc, Mme Leblanc, un autre commentaire à soumettre à notre invité.
Mais dans cette optique-là, de consultation des gens, souvent, on va offrir des choses à la municipalité aussi là, qui accueille, en fait, les lignes de transport. François nous en parle. Il dit, c'est bien beau et bien content pour le village. Donc, c'était justement un cas où on avait donné de l'argent à la municipalité. Il dit, mais je ne crois pas que ce soit dans le mandat d'Hydro-Québec de faire construire des casernes de pompiers ou fournir des jeux aux maisons de jeunes. Si vous avez des surplus qui vous permettent de participer à ces infrastructures, donc vous n'avez aucun rapport. Arrêtez d'augmenter vos tarifs. Là, il y a souvent un raccourci vers arrêter d'augmenter vos tarifs dans les commentaires.
Tous les commentaires peuvent finir par arrêter.
Tous les commentaires mènent à arrêter d'augmenter vos tarifs.
Et éventuellement un sophisme aussi.
Oui, et on rappelle que ce n'est pas nous qui gérons les tarifs, c'est encadré par la loi, petite parenthèse. Mais ce dont François nous parle, en fait, c'est le PMVI. Et Dieu sait qu'on aime les acronymes.
Donc, le programme de mise en valeur intégrée, ça vise à compenser les impacts vécus suite à l'installation d'une infrastructure dans une municipalité ou dans un milieu. Et c'est un montant d'argent qui va pouvoir servir à un projet pour mettre en valeur, dans le fond, le fait qu'il y a eu un projet d'hydro, mais pour la municipalité. Par exemple, un nouvel aréna ou... Je ne sais plus, vous aviez une caserne de pompiers comme exemple.
Des jeux à la maison des jeunes.
Je ne suis pas convaincu que la caserne de pompiers, ça ferait la cote du PMVI, mais la maison des jeunes, oui.
Des jeux à la maison des jeunes. Fait que tiens, voilà un Monopoly, arrange-toi avec ça.
Ouais.
On a construit une ligne, mais voici un Monopoly.
D'habitude, le montant, c'est plus qu'un jeu de Monopoly.
On ajoute un parchési.
C'est peut-être plutôt des jeux dans le parc, ou disons, peut-être qu'ils ont refait un parc.
Ah, quelque chose
du genre. Oui, il me semble que de ma compréhension du PMVI, maintenant que je suis plus à jour sur l'acronyme, c'était justement des... Tu sais, par exemple, on a refait un espèce de parc où il y avait comme un chemin de vélo à Montréal il n'y a pas super longtemps. Je pensais que c'était plus ce genre de choses-là qui rentraient dans le PMVI.
Oui, bien, tout projet que la communauté va juger pertinent pour améliorer la qualité de vie du milieu et que Hydro-Québec a quand même un droit de regard sur le projet, mais on n'est pas trop regardant.
Puis les bars, comme ça, ne fonctionnerait pas, finalement.
Je ne suis pas sûr que les bars, ça fonctionnerait. Non.
Il y a une transition énergétique. Si vous me donnez un petit Monopoly pour mon salon, ça va être correct.
Mais là, tu dis on a une transition énergétique. Dans le fond, avec la transition énergétique, on va avoir de plus en plus besoin d'électricité, donc plus de projets de ligne. Okay.
Ça s'enligne comme ça.
Ça s'enligne comme ça.
Donc,
c'est sûr que la planification, c'est un peu l'art du minimalisme. Hein. C'est de se débrouiller avec ce qu'on a le plus possible, de faire le moins de projets possibles. Par contre, des récents développements qu'on voit, par exemple, le dernier plan stratégique nous annonce un plus 100 TWh d'ici 2050. Les 100 TWh, c'est 100 de plus que 179 en ce moment. Donc, je me souviens plus d'où vient l'expression, mais on avait parlé d'un demi-hydro de plus, là. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si on ajoute 100 TWh de production sur le réseau, bien, il va y avoir des nouvelles lignes. Par contre, il y a plusieurs moyens de venir mitiger le nombre de projets à venir. Mais c'est certain que dans le cadre d'une transition énergétique, dans le cadre de l'électrification des transports, dans le cadre de l'électrification de beaucoup de processus industriels qu'on va aller décarboner, qu'on va aller modifier, vraiment passer d'une économie qui roule au carbone vers une économie qui roule à l'électricité, bien, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs projets d'infrastructures dans les prochaines années.
Monsieur Côté, on a un quiz à nous soumettre.
Oui, en fait, je vais tester un peu vos connaissances concernant notre sujet. Donc, on parlait du réseau de transport, donc les lignes à haute tension. Et là, je m'attends à ce que notre invité connaisse facilement la réponse. On va voir les autres, si vous
voulez. Il faut qu'il nous laisse une petite chance.
Okay. Donc, quelle est la longueur du réseau de transport d'Hydro-Québec?
Tu nous donnes combien de temps, mettons, pour y parler?
Bien, mettons, on a 20 minutes. Les gens...
La longueur combinée?
Vous pouvez avancer l'épisode.
La longueur totale? La longueur des portées?
Sois précis,
la hauteur des pylônes?
La hauteur... La longueur qui est écrite dans notre rapport annuel.
300...
C'est ça.
Okay, je vais vous donner la
30
000
kilomètres.
T'es pas loin quand même, Gabriel est pas loin. La réponse, c'est 34 678 kilomètres. C'est 135 fois la distance entre Montréal et Québec et 1825 fois la distance entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, les deux sont pas bien, bien loin quand même. Et le réseau de distribution, quant à lui, fait 120 000 kilomètres. Une autre bonne question pour vous sur notre réseau de lignes à haute tension. Combien de kilomètres de lignes de transport à 735 kV sont enfouis?
Combien de kilomètres? Ouf, pas beaucoup. On a compris que c'était compliqué.
Zéro.
C'est la bonne réponse.
Excellente réponse. Le câble à 735 kV n'existe pas.
Et voilà.
Parce que s'il existait, on ne saurait même pas comment ça... Bref, s'il existait, on ne pourrait pas s'en servir. À cause de mon histoire de bière puis de brou, là, donc de puissance réactive, un câble à 735 kV générerait tellement de brou, tellement de puissance réactive qu'on serait à peine capable de faire 4 ou 5 km avec.
Donc, c'est donc dire que nos grandes lignes, nos plus puissantes, c'est impossible de les enfouir, du moins dans la technologie existante, peut-être dans 500 ans. Une civilisation plus avancée rira de nous avec notre technologie d'aujourd'hui, mais aujourd'hui...
Ils auront de l'électricité Wi-Fi.
Mais c'est ça, faites donc voilà. 735 Wi-Fi à la place.
Ça serait pas pire. Ça OK, serait troisième question... Là, je m'attends à ce que ce soit Gabriel et Pierre-Alexandre qui soient les plus proches, mais notre invité aura peut-être la réponse.
La pression est haute sur toi.
Depuis trois ans, combien de commentaires à propos de l'enfouissement de lignes a-t-on trouvé sur les médias sociaux d'Hydro-Québec?
As-tu réussi à calculer ça?
Je les ai comptés un par un. Ça fait trois semaines que je suis sur le dossier. Maintenant, on a des outils pour pouvoir trouver ça.
Je dirais 8073.
Hein, j'aurais dit genre 4600.
Oh, vous êtes quand même ambitieux. Il y en a moins que ça, même si je sais que des fois, ça a l'air...
On a l'impression qu'il y en a plus.
Oui. En fait, depuis trois ans, il y en a eu 560.
Ah, ça va bien.
Si on compare, c'est un peu moins des 671 qui nous ont parlé de factures, des 745 qui nous ont parlé de fils, des 109 qui nous ont parlé de pylônes, mais beaucoup plus que les 5 commentaires qui nous ont parlé de bobettes.
Ce qui est déjà quand même trop. Soyons honnêtes.
Je suis pas allé voir dans quel contexte ils nous ont parlé de Bobette, mais ils nous en parlent moins souvent.
Mais il paraît que dans un épisode de la saison 2 du podcast, votre tweet est important pour nous. On parle beaucoup de Bobette Léopard chez les monteurs.
Chez les monteurs.
Oui. Ah, un excellent épisode.
Surveillez ça dans les autres épisodes.
C'est dans l'épisode sur la maîtrise de la végétation. Et là, j'ai une dernière question pour vous. Combien de postes est-ce qu'Hydro-Québec détient dans son réseau de transport?
47.
TVA, TQS...
TQS, ça trahit notre âge.
Mais je me suis dit, avec beaucoup d'assurance, ça va peut-être passer puis on va être correct.
Il y a 539 postes, donc c'est un peu moins que le nombre de commentaires à propos de l'enfouissement, mais on a environ 108 postes pour chaque commentaire qui mentionne le mot « Bobette ».
Il y a sûrement un lien.
Dans cette portion du balado, on a un commentaire qui provient d'un beau-frère. Et ensemble, on va essayer de trouver une réponse à ce commentaire-là. Donc, c'est quoi mes recours si l'empereur Hydro décide de me faire passer un pylône dans ma cour? La société d'État se pense vraiment tout permis, Staline de Bine.
Il y a quand même beaucoup de...
C'est un beau parti de famille.
En fait, ça répète à ton segment poésie involontaire.
C'est vrai? Absolument. De nous comparer à un empereur, c'est peut-être un peu imposant. Là,
comme... Oui. Il y a beaucoup de nouvelles pratiques en termes de consultation du milieu, en termes de pour promouvoir l'acceptabilité sociale des projets aujourd'hui. D'être comparé à Staline, je pense que même l'Hydro-Québec des années 80 se revire dans sa tombe quelque part. Maintenant, il y a plusieurs choses dans le nouvel élan d'acceptabilité sociale qui viennent nous aider. Par exemple, considérer l'enfouissement à la planification. Aussi, considérer les paysages, venir accompagner les riverains, comme on en parlait un peu plus tôt. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qui viennent nous donner des outils nécessaires pour faire en sorte que le projet soit un meilleur projet, devienne un projet plus acceptable.
On ne peut pas dire, donc peut-être qu'on pourrait lui répondre que même si on ne peut pas dire que le client est roi, nos démarches de consultation sont un peu plus avancées que celles de Staline quand même.
Oh oui, tout à fait.
Le client n'est pas roi, mais Hydro n'est pas empereur.
Donc, pour résumer cet épisode en quelques mots, on consulte bien davantage, même pour les projets de transport, les projets de plus grande envergure qu'on le faisait auparavant. Par contre, il y en aura davantage en raison des besoins énergétiques qui augmentent au Québec et ailleurs. Et finalement, si on enfouissait un réseau de transport, ça ferait énormément de brou.
Oui, ça ferait trop de brou à gérer. Donc, et notre optique, c'est vraiment de concevoir le réseau le plus durable possible, donc pour répondre à nos besoins, mais aussi aux besoins de ceux qui vont nous suivre. Puis les projets de lignes de transport bien, viennent alimenter la transition énergétique. Donc, on est très, très fiers d'y contribuer.
Merci beaucoup d'avoir été là, André.
Ça fait plaisir.
Merci aussi à vous et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.